Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur le logiciel libre, libertés informatiques et également de la musique libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Modèle d'organisation ouvert dans les entreprises du logiciel libre, ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme en début d'émission la chronique de G sur IA partout, justice nulle part, et en fin d'émission la chronique de Luc sur Dark Pattern. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles. Nous sommes mardi 28 mai 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Élise. Bonjour Élise.
Bonjour tout le monde, bonne émission.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique Les humeurs de G. G, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème du jour, IA partout, justice nulle part. Salut G.
Salut, et salut à toi public de Libre à vous. Allez, ça y est, là, je crois qu'on y est. Cette fois, l'IA, j'en ai officiellement plein le cul. Ouais, pardon pour le langage, mais fallait que ça sorte. Non, là, je n'en peux plus d'entendre parler d'IA 10 fois par jour. Sérieux, j'en suis presque à regretter la mode des NFT ou même le métavers. Qu'est-ce qu'ils ont tous, là? C'est le printemps, c'est ça? La nature se réveille, les abeilles se replongent dans les fleurs et les start-upers dans la coke? Non, mais il y en a marre! Alors, je connais pas l'avenir, hein. Peut-être qu'on est au début d'une nouvelle ère et que l'IA va devenir aussi omniprésente et incontournable que les ordinateurs ou Internet. Et que moi, là, en vieux paumé, je suis peut-être comme Pascal Nègre qui déclarait en 2001 « Internet, pff, on s'en fout, ça marchera jamais ». N'empêche que l'IA, en tout cas celle d'aujourd'hui, l'IA générative, celle qu'on nous vend à longueur de journée, ça ressemble quand même de plus en plus à une très grosse bulle. Tout le monde en parle, tout le monde essaie d'en intégrer partout très vite, et comme ça coûte une blinde, c'est pour l'instant un gouffre à pognon. Quand il va être l'heure de rentabiliser tout ça, à mon avis, ça va faire mal. Tu connais l'histoire, lors de la ruée vers l'or, ce sont surtout les marchands de pelles qui se sont enrichis, et là, à part Nvidia et ses cartes graphiques, j'ai du mal à piger qui va ressortir gagnant de tout ça. Jusqu'à Google qui, pris de panique, veut sortir très vite une version IA de son moteur de recherche. Alors, ça faisait quelques années que les gens remarquaient que les résultats de Google étaient de moins en moins bons, car tellement tournés vers la pub qu'ils en étaient gangrénés par des sites d'e-commerce bidons, reléguant les résultats pertinents, mais non lucratifs, bien loin derrière. Eh bien, il y a fort à parier que tu regretteras bientôt ces résultats déjà pas folichons. Google utilise désormais par défaut Gemini, son intelligence artificielle qui, au lieu de te retourner juste une liste de sites, répond directement à ta requête via IA, en assimilant et en recrachant de façon plus ou moins exacte, mais plutôt moins, les informations glanées sur Internet. Enfin, les informations volées sur Internet. Hein. Ah oui, parce que le droit d'auteur, quand c'est pour emmerder ton ado de 14 ans qui a piraté le dernier Taylor Swift, les pouvoirs politiques sont main dans la main avec les multinationales pour te pondre des Adopi et bloquer les domaines comme The Pirate Bay à tour de bras. Mais alors le droit d'auteur, quand c'est Google et Microsoft qui pillent tranquillement l'intégralité de tout ce qui est publié sur Internet, alors là, on s'en fout, mais on s'en fout. Non mais bravo, bravo Microsoft, bravo Google, c'est bien les gars, continuez, pillez, pillez. Non non mais tu comprends, c'est de l'innovation, c'est l'avenir. On va quand même pas se laisser enquiquiner par des trucs désuets comme le respect des artistes ou des journalistes. Pff, non mais t'es tellement ancien monde quoi. Bon et puis là je parle juste du côté humain, social, hein. Parlons même pas du côté écologique, hein. On se fâcherait. Ah oui, parce que ça, soudainement, tout le monde s'en fout aussi. Hein. Microsoft s'était fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2030. D'ailleurs, leurs émissions de carbone avaient commencé à décroître, mais ça, c'était avant. Hein. Avec le boom de l'IA, les émissions de carbone de Microsoft ont bondi de 30% depuis 2020. Oui, bon, pff, allez, hein, foutu pour foutu, qu'est-ce qu'on en a à secouer? C'est juste la survie à court terme de l'espèce humaine qui est en jeu. Alors l'argument pour défendre ça, je le connais. Oui, mais ça se trouve, l'IA va nous aider à infléchir le changement climatique. Oui, c'est ça, et mon cul, c'est du pingouin. Non mais pardon, mais ça c'est comme la croissance verte ou l'écologie qui est une chance pour l'économie. C'est s'imaginer que la cause d'un problème va aussi en être la solution, comme si on éteignait un incendie avec du kérosène. Enfin bon, voyons le positif au moins.
avant de crever, on aura pu générer des images d'humains à 13 doigts, des longs textes insipides de marketeurs pour répondre mal à des recherches internet, et puis du code informatique généré automatiquement et incorrect dans 50% des cas. Je crois que c'était les résultats de la dernière étude sur ChatGPT. De toute façon, comme l'IA utilise ce qu'elle trouve en ligne pour s'alimenter et que ce qui se trouve en ligne devient de plus en plus le résultat de génération automatique par l'IA, il y a fort à parier que l'IA va finir par se dissoudre dans elle-même, régurgitant et recrachant son propre vomi en boucle. Essaie donc de compresser la même image en JPEG 1500 fois de suite et tu verras ce que je veux dire. À la fin, t'as plus qu'une bouillie de pixels. Donc on peut facilement imaginer qu'après que le web aura été digéré et recraché 1500 fois de suite par l'IA, il n'en restera qu'une bouillie d'informations. Déjà que certaines IA intègrent des sites parodiques comme The Onion ou Le Gorafi dans leurs sources sans les distinguer des sites non parodiques, ça nous promet une belle dégringolade dans la qualité du web. Et je crois que ce qui me gonfle le plus dans tout ça, c'est que finalement, on en arrive à la négation même de l'informatique. Je m'explique, hein, le gros intérêt de l'informatique, outre la rapidité, c'était d'être fiable. Un programme informatique, à la base, ça part souvent d'un algorithme déterministe, donc de quelque chose qui te garantit d'offrir toujours la même réponse à une même question. Alors oui, c'est pas très fun, mais quand je fais passer un correcteur d'orthographe, il me retournera toujours invariablement les mêmes fautes. Presque chiant, hein, mais c'est pratique, c'est utile. Alors que le principe même des IA génératives qui ont le vent en poupe actuellement, c'est d'imiter l'être humain. Et pour imiter l'être humain, bah, il faut avoir des réponses variées avec son cortège d'erreurs. On a donc maintenant des algos non déterministes, avec des tas de biais intégrés au passage, dont très peu de gens pigent réellement le fonctionnement, qui mâchonnent des quantités délirantes de données pour en déduire des moyennes statistiques à la pertinence très variable, et qui consomment 3 forêts amazoniennes par an, mais ça je l'ai déjà dit. Et on s'interroge avec gourmandise, mais est-ce que l'IA va bientôt dépasser l'être humain ? Question débile à mon sens, hein, car ça fait belle lurette que les ordinateurs ont dépassé l'être humain sur tout un tas d'aspects, et notamment sur la rapidité, comme je le disais. Exemple, si je te demande de me trier 1 million de documents selon leur date, ça va te prendre des heures, sans doute des jours, voire des semaines, j'ai pas fait le calcul, hein, mais ça doit être dans ces eaux-là. Alors que si tu lances un programme de tri pour ce million de documents, au moment où ton doigt se relève de la touche entrée, ton million d'éléments est déjà trié. Et ça, c'était déjà le cas il y a 20 ans, hein, et sans IA, juste avec des algorithmes bien foutus. Et c'est ça qui est cool avec le numérique. Pas d'avoir des chatbots qui arrivent à imiter Jean-Michel de la Conta pour passer le test de Turing. Ah, je vais pas te refaire ma vieille BD qui s'appelait « Les ordinateurs sont cons », mais l'intérêt de l'informatique au départ, c'est de faire très vite et avec beaucoup d'efficacité tous les trucs chiants et répétitifs que les êtres humains font mal et lentement. Pourquoi ? Bah, pour nous libérer du temps pour des tâches plus épanouissantes. Au lieu de ça, l'IA nous pique les tâches épanouissantes, en les faisant mal, une fois sur deux, mais beaucoup plus rapidement que nous, tandis que les boulots précaires se multiplient. On voulait des robots qui fassent le ménage pendant qu'on apprenait la musique, on se retrouve avec des robots qui peuvent composer 15 000 chansons à la minute pendant que des travailleurs et travailleuses sont sous-payés à corriger leurs erreurs en boucle. Super. Après, soyons honnêtes, IA ou pas, la culture de masse est déjà produite à la chaîne par des algorithmes. Évidemment, les scénaristes Netflix qui ont un manuel hyper détaillé avec les bonnes ficelles, les bonnes recettes, les bonnes intrigues à dérouler en boucle, série après série, est-ce qu'on verra vraiment la différence si on les remplace par des IA ? L'IA fait exactement ce que Netflix veut, produire le résultat statistiquement le plus attendu, celui qui satisfera en moyenne le plus de monde, à la chaîne, de plus en plus vite. Et l'art dans tout ça ? L'art, ben, je crois qu'on sait très bien comment ça va finir. L'IA, ça ne va pas remplacer tous les artistes. Ça va devenir le low cost de l'art, du journalisme, de tout ça. Des trucs passables, statistiquement moyens, produits à la chaîne pour de la consommation de masse, comme on produit de la malbouffe industrielle pour les pauvres, tandis que les riches continueront à avoir les moyens de se payer des artistes et des journalistes pour avoir accès à du contenu de qualité garanti sans IA, comme on achète de la bouffe bio garantie sans pesticides et additifs. Bon, on va sans doute me dire que cette chronique est quand même vachement manichéenne et sans doute caricaturale. Oui, c'est vrai, et il y a probablement du positif dans l'IA. Allez, tiens, je vais être honnête, j'ai moi-même récemment utilisé un traducteur automatique basé sur de l'IA pour communiquer avec une personne qui ne parlait ni français ni anglais, et de langue que je maîtrise. Oui, c'était vachement pratique et incroyablement efficace. Mais ceci étant dit, j'ai quand même hâte que cette bulle de l'IA éclate, et je nous souhaite à toutes et tous qu'elle ne fasse pas trop de dégâts, car en attendant, c'est une grande part de nos espaces numériques qui risque d'être colonisée et pourrie par des IA mal finies, au nom du fameux « Move fast and break things », l'ancienne devise de Facebook, « Allez vite et tout casser », en gros, un joyeux programme. Allez, sur ce, je te laisse et je m'en retourne à mes petits dessins garantis sans IA, mais qui iront sans doute nourrir les IA des GAFAM, parce que, licence libre ou pas, de toute façon, les GAFAM se torchent avec le doigt d'auteur. Je vais peut-être commencer par dessiner des personnages à 13 doigts, du coup, juste pour les emmerder. Allez, salut.
Bah écoute, merci G, et on renvoie les auditrices et auditeurs qui veulent découvrir ces BD certifiés sans IA sur ton site, hein, grisebouille.net, et je vais juste rappeler, pour peut-être les plus jeunes, expliquer que Pascal Nègre, c'est l'ancien directeur ou patron d'Universal France, hein. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, c'est peut-être toujours chez Universal. En tout cas, donc c'était la chronique Les Humeurs de G, dont le titre était « Il y a partout, justice nulle part ». Bon, je te demande pas la référence.
Mais on voit... En fait, pour la petite histoire, j'ai un ami qui, dès qu'on dit quelque chose qui finit par « partout », il rajoute toujours « justice nulle part ». Ce qui fait que j'ai du mal à dire « partout » maintenant sans avoir « justice nulle part » derrière.
Voilà. D'accord. Bah écoute, merci G. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de modèles d'organisation ouverts dans les entreprises du logiciel libre. En attendant, nous allons écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus. On se retrouve dans 1 minute 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Dans la maison,
Cause Commune.
Y a Dracula dans le beau salon. Y a un zombie qui mange mes biscuits. Y a une sorcière qui tricote derrière. Y a un squelette qui met mes baskets. Y a un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Une araignée qui lit mes BD. Y a un gros rat qui rigole de moi. Un loup-garou qui veut des bisous. Y a un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Une chauve-souris cuit des spaghettis. Y a un serpent qui se brosse les dents. Et un chat noir avec une guitare. Y a un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Y a un zombie qui mange mes biscuits. Y a une sorcière qui tricote derrière. Y a un squelette qui met des baskets. Y a un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Y a un zombie qui mange des biscuits. Y a une sorcière qui tricote derrière. Y a un squelette qui met des baskets.
Nous venons d'écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus, disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre sujet principal. Eh bien, il est 15h42, j'aime bien cet horaire. On va démarrer notre sujet principal qui va porter sur les modèles d'organisation ouverts dans les entreprises du logiciel libre. Alors, mardi dernier, nous avions diffusé la première partie de ce sujet, qui était une rediffusion de l'émission numéro 178 du 13 janvier 2023. Donc, si vous n'avez pas écouté cette première émission, vous pouvez la réécouter sur le site libreavoue.org/178. Alors, nos invités, Valentine Augier-Galland et Nicolas Chauva, qui vont se présenter dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou sur le site de l'émission libreavoue.org, ou encore par téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors, on va commencer par une petite présentation. Valentine Augier-Galland.
Bonjour, je suis à mon compte depuis une bonne douzaine d'années. Aujourd'hui, j'aide les organisations à s'aligner avec leurs valeurs. Et je fais ça à l'intérieur d'une coopérative qui s'appelle Créaline, dans laquelle je collabore avec deux personnes qui s'appellent A3, on est le studio Agile. Voilà.
Ok, ben, merci Valentine. Nicolas Chauva.
Eh bien, moi, j'ai fait des études d'ingénieur il y a un certain temps, au cours desquelles j'ai pu découvrir le logiciel libre et Internet. Et après avoir fait un peu d'intelligence artificielle, j'ai fait la société Logilab, qui a toujours fait du logiciel libre, qui se spécialise dans les encyclopédies de données, on va dire, où on rassemble toutes les données au même endroit et ensuite on fait des références croisées. Et depuis plus de 20 ans, on essaie d'organiser cette entreprise de la manière la plus horizontale possible. Et donc c'est pour ça que, avec Valentine, on s'est intéressé à comment avaient fait les autres.
Exactement. Donc, je vais rappeler simplement le contexte déjà de votre enquête et je vous laisserai éventuellement préciser avant qu'on rentre dans le sujet de la discussion. Donc, sur la page d'introduction à votre projet, je le lis tout simplement. Hein. Le modèle d'entreprise le plus visible aujourd'hui est très hiérarchisé, généralement avec une concentration des pouvoirs et des informations et des dérives autoritaires fréquentes. Et pourtant, de nombreuses entreprises ont adopté et explorent encore des modèles alternatifs. Dans le milieu du logiciel libre, se sont multipliées les initiatives à base de transparence, partage des responsabilités, gouvernance participative et autres approches horizontales. Ainsi est née l'élan de vie d'une enquête sur ces modèles différents, donc modèles d'organisation ouverts, pour y trouver de nouveaux outils, partager des expériences, les résultats, en espérant que d'autres puissent s'en inspirer. Alors votre enquête n'est pas finie, mais aujourd'hui on souhaitait faire parler d'un point central, tu l'as prononcé tout à l'heure le mot horizontalité, et donc de parler des entreprises, organisation horizontale versus verticale. Donc ça c'est l'intro de votre enquête. Vous reviendrez sans doute une troisième fois, une fois que vous aurez terminé votre enquête, parce que c'est la base d'interview, donc vous n'avez pas encore fini. Hein. Est-ce que, avant qu'on parle vraiment de la partie vraiment centrale de l'échange d'aujourd'hui, qui est l'horizontalité, est-ce que vous voulez compléter cette introduction sur votre enquête, les objectifs, le mode de travail ? Valentine ?
Alors, je dirais, effectivement, c'est un point d'étape. Nous avons interviewé une douzaine d'entreprises, une dizaine. Certaines entreprises plusieurs fois, ou certaines organisations plusieurs fois. Ça a fait une grosse masse de données, et la synthèse est commencée. On sait par avance qu'on va avoir d'autres interviews qui vont venir, et d'autres étapes. Ce point, c'est un peu pour faire une première synthèse.
Tu citais la page de l'émission du projet, Fred. Sur cette page du projet, on affiche qu'on a parlé de ce projet à l'April et à Framasoft qui nous ont dit ça nous intéresse, allez-y, si vous produisez des résultats, on vous aidera à les diffuser. Donc c'est aussi un peu dans ce cadre-là que tu nous as invité à l'émission Libre à vous. Je sais pas si on aura fini dans un an parce que on n'avance pas extrêmement rapidement non plus parce que on a une activité professionnelle qui est assez prenante déjà et on rajoute ces heures-là un peu en plus du reste. Et je pense qu'on est venu la première fois il y a un an.
C'était tout à fait, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est je me suis trompé d'ailleurs, j'ai marqué janvier 2023, mais pas du tout, c'était en juin 2023.
Voilà, donc moi je le vois comme une sorte de point d'étape où il y a un an on a expliqué ce qu'on avait commencé à faire. Un an après, je pense qu'on a changer de position sur certaines choses, etc. Donc on peut raconter ça. Et puis si on est toujours là pour en parler dans un an, peut-être tu pourras nous réinviter. Puis on verra si c'est la dernière fois ou pas.
C'est prévu. S'il faut une troisième, quatrième émission, on verra bien. Donc effectivement là, quand on a préparé l'émission, il y avait le mot clé qui est revenu principalement, c'est l'horizontalité, parce qu'en fait c'est un peu l'un des cœurs du sujet. Mais en fait, l'horizontalité, c'est pas un terme binaire, c'est pas, on n'est pas horizontal ou on est horizontal ou on n'est pas horizontal, c'est pas ça, c'est pas aussi fixe que ça. Il y a différents niveaux d'horizontalité. Alors peut-être que justement, on pourrait essayer de commencer par les différents niveaux d'horizontalité que vous voyez à partir de vos enquêtes. Qui veut commencer ? Nicolas.
Moi, je veux bien commencer avec une courte définition. Ce qu'on appelle horizontal et vertical, là, avec Valentine, c'est pour nous vertical, c'est horizontal, pardon. C'est les organisations qui favorisent la responsabilisation des gens et leur autonomie, c'est-à-dire que les gens qui font des choses aient la possibilité de prendre des décisions qui correspondent à ce qu'ils sont en train de faire, qui soient pas systématiquement obligés d'en référer à quelqu'un d'autre, qui va intégrer des informations qui viennent d'ailleurs auxquelles eux n'auraient pas accès et prendre une décision qui leur redescendrait sans forcément qu'il y ait d'explication en disant tu m'as dit que t'étais dans telle situation, je te dis de faire ça. Tu m'as dit que t'étais dans telle situation, je te dis de faire ça. Ça pour nous c'est vertical. Je suis dans cette situation là, je sais ce qui se passe autour de moi. Et je sais que dans ce cas particulier, je vais décider ça et je vais continuer. Ou dans ce cas-là, je vais en parler aux autres pour voir ce qu'on fait. Ça, à l'inverse, c'est horizontal.
D'accord. Valentine, sur cette définition de l'horizontalité ?
On a la même. Moi, je le formulerais en disant la responsabilité est répartie sur les différents membres de l'organisation, où la responsabilité est concentrée sur un petit nombre de membres de l'organisation. J'irais même jusqu'à dire que cette horizontalité, elle se manifeste sur la durée. C'est-à-dire qu'on peut avoir des entreprises qui sont horizontales parce que la responsabilité change au fil du temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui décide, mais si cette personne change régulièrement pour un type de décision, eh bien on se retrouve quand même avec un motif d'horizontalité. Et ça, c'est peut-être le plus important de nos définitions, c'est que tu disais l'horizontalité et la verticalité, c'est pas deux choses binaires. D'un côté, on a la verticalité, c'est mal, et de l'autre côté, on a l'horizontalité, et c'est bien. On a plein de motifs qui vont vers l'horizontalité, et on a plein de choses qui vont nous limiter pour être horizontal. Donc, si on a un objectif d'horizontalité, on peut y être plus ou moins proche.
Alors, attends, juste avant de te laisser réagir, Nicolas, sur le terme motif, est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par motif ? Et avant qu'on les liste, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu entends par le terme motif, en fait ?
C'est des
fonctionnements
qui se répètent. En fait, pendant nos entretiens, on a identifié un certain nombre de choses que l'on voyait d'organisation en organisation.
D'accord. Okay.
Donc un schéma de fonctionnement.
Un schéma de fonctionnement qui se répète.
Un petit schéma de fonctionnement qui se répète ou qui est identifiable comme appartenant à cet objectif d'horizontalité.
Et à l'inverse, les anti-motifs qui n'appartiennent pas à cette mise en œuvre de l'horizontalité, c'est ça ?
Ou en tout cas, qui vont la freiner.
Qui vont la freiner, d'accord. Donc on va y revenir juste après, mais tu voulais réagir, Nicolas ?
Oui, je voulais juste rajouter... Donc Valentine et moi, on a des formations d'ingénieurs. Notre spécialité à la base, c'est plus d'écrire du code. Donc on prétend pas faire des sciences sociales comme les gens dont c'est le métier, même si là c'est un peu le sujet. Et comme on travaille nous-mêmes dans des organisations qui essayent d'être horizontales, enfin faut prendre tout ce qu'on dit avec un grain de sel et le fait que on est complètement subjectif dans cette affaire.
Ah, mais tout à fait. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. Et vous basez en plus sur les entretiens d'entreprises qui mettent en œuvre.
Qu'on a choisi, avec un petit ensemble statistique, donc voilà. On ne va pas pouvoir.
Mais peu importe, on n'est pas là pour faire des sciences sociales.
Okay. J'ajouterais même que la subjectivité, elle est. On a rencontré très peu de gens qui n'avaient pas d'avis. C'est un sujet, l'organisation d'une entreprise ou l'organisation de là où on vit, là où on travaille, c'est un sujet qui est engageant, c'est un sujet qui, oui. Qui est impactant. Donc de toute façon, que ce soit nous ou que ce soit les autres, il y a de la subjectivité et il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, des choses sur lesquelles on réagit fortement.
Ok, tout à fait, oui. Alors, tout à l'heure, t'as introduit un terme, enfin, deux termes intéressants qui sont les motifs qui favorisent l'interopérabilité, les anti-motifs qui pourraient la freiner. Est-ce qu'on pourrait commencer justement par ça? Quels sont déjà le côté positif, quels sont les motifs qui favorisent l'horizontalité? Valentine?
Alors, j'ai parlé d'un, c'est ce que moi j'appelle la fluidité des mandats. Il y a peut-être un meilleur terme qui va apparaître plus tard, mais en gros, un mandat, c'est explicitement le fait d'avoir une sphère de décision ou de responsabilité. Donc, j'emploie le terme mandat parce que le côté explicite est important. Et la fluidité, c'est les mandats peuvent changer de personne. C'est-à-dire, soit les mandats sont répartis, c'est pas une personne qui fait toujours tout, soit les mandats changent régulièrement, soit les mandats sont partagés par un groupe, un cercle, un comité, quelle que soit la façon dont on l'appelle, si le mandat est fluide et dilué, on a un bon motif, on va vers l'horizontalité.
Plutôt que motif et anti-motif, ça donne une direction du genre horizontal c'est bien et vertical c'est mal. Alors, je suis plutôt parti avec cette idée-là, moi, il y a un an et demi. Aujourd'hui, je pense que j'ai un peu changé de point de vue là-dessus.
Pour préciser, le point de départ, quelque part, enfin, venant du livre, c'est, on se dit, l'horizontalité, c'est bien, quoi qu'il arrive. La verticalité, c'est mal. Parce qu'on n'a pas été on n'a pas baigné dans la verticalité, dans mon, enfin, quoi que si, en fait, dans le monde du libre, il y a beaucoup de verticalité, excuse-moi, effectivement.
Souvent dans des contextes toxiques. C'est-à-dire, on a beaucoup de verticalité toxique. Oui. On en a plein d'exemples.
Voilà, c'est ça.
Et donc, on se dit, ben, l'horizontalité, déjà, c'est une autre voie, c'est une alternative. Et ça va forcément être mieux.
Et pas toxique.
Oui. Et pas toxique.
On y reviendra tout à l'heure. Je te laisse. Voilà. Mais je trouve, on va y revenir tout à l'heure parce que sur la partie toxicité. Mais je te laisse poursuivre.
Moi, plutôt que motif et anti-motif, je dirais, il y a certains motifs qui vont dans le sens de l'horizontalité et d'autres qui vont dans le sens de la verticalité. Valentine vient de parler des responsabilités. Bah, typiquement, si tu concentres les responsabilités sur un très petit nombre de gens, si tu concentres les responsabilités, tu vas dans le sens de la verticalité. Si tu fais des responsabilités tournantes, tu les répartis, tu vas dans le sens de l'horizontalité. S'il y a des choses explicites, si c'est implicite, il y a plus de chances que ça devienne vertical que horizontal. C'est-à-dire, pour que les responsabilités soient réparties, que la prise de décision soit répartie, il faut explicitement dire que les gens peuvent prendre les décisions de là où ils sont. Sinon, il peut y avoir une tendance à dire « Ah, je sais pas si j'ai le droit, je vais pas le faire. »
Tu veux dire que ce qui est important, c'est rendre explicite l'implicite, et donc vraiment de rendre explicite quelles décisions peuvent être prises et par qui?
Exactement.
Dans quel processus?
On peut avoir une organisation verticale avec beaucoup d'implicites, avec des hiérarchies implicites. Si on veut être horizontal, il va falloir rendre ces hiérarchies visibles. Et si on supprime toutes les hiérarchies managériales habituelles et qu'on ne fait rien d'autre pour mitiger la tendance naturelle, eh bien, on va se retrouver avec des hiérarchies implicites, par exemple. Ce sont les membres de l'organisation les plus anciens qui décident, ou ce sont ceux qui ont le plus de diplômes, ou ce sont ceux qui parlent le plus fort.
Alors justement, ça me fait penser. Voilà. Alors je vois la question de Marie Odile, enfin la remarque sur Marie Odile. Je vais la relire juste après. Mais comme tu parles de ça, juste avant l'entrée en studio, je vous racontais une petite histoire. Et là, je vais juste citer entre guillemets un message que j'ai vu ce matin, mais sans citer du tout le contexte. Hein. En gros, la personne dit que le fonctionnement horizontal ne protège pas forcément les salariés. La démocratie d'entreprise, mis entre guillemets, n'a aucune valeur si on laisse les personnes les plus brillantes prendre le dessus. Et la personne précise, ce n'est pas parce que c'est une SCOB, donc une coopérative, que par magie tout irait bien. Donc c'est
un point sur. Il y a un an, c'est peut-être ce qu'on a dit dans l'émission d'il y a un an. D'ailleurs, j'ai pas réécouté ce qui a été rediffusé la semaine dernière. On était plutôt sur une position horizontale, c'est bien, et verticale, c'est mal. Aujourd'hui, on serait plutôt sur une position, être incohérent, c'est mal, être cohérent, c'est bien. C'est-à-dire, si tu affiches un désir, tu dis à tout le monde on est horizontal, et qu'après tu te comportes autrement, l'incohérence va te causer des problèmes. Si tu dis à tout le monde, chez nous c'est vertical, ça se passe comme ça, et que tu te tiens à ce qui est dit, bon, après, voilà, les règles sont connues, les gens peuvent choisir de travailler là ou de travailler ailleurs, mais au moins c'est clair.
Alors, je vais relayer la remarque de Marie-Odile, je vais demander de réagir dessus. Donc, Marie-Odile nous dit, et on la salue parce que Marie-Odile fait la quasi-totalité de transcription des émissions Libre à vous, voilà, et d'autres pour l'April sur le site donc librealire.org. Elle nous dit, la verticalité non toxique me conviendrait, et elle précise, je ne suis pas responsable, c'est reposant.
Absolument.
Et c'est vrai qu'en fait, ça fait partie des choses qui sont reposantes de ne pas avoir prendre de décision, de ne pas être donc, responsable de quelque chose.
Tu nous avais prévenu que on était susceptible de commencer par la fin. Donc,
alors, je vous avais prévenu que l'ordre qu'on avait prévu n'était pas susceptible d'être suivi parce que c'est une discussion. Voilà. Alors, pour être en toute transparence sur la préparation de l'émission, ce qui est pas toujours le cas d'ailleurs, on fait pas ça. Mais là, on a fait une heure d'échange entre nous. Donc, on avait prévu un petit déroulé, mais j'avais prévenu que, en fonction effectivement de notre démarrage d'émission et des questions sur le salon, on pourrait peut-être changer l'ordre. Donc c'est pas très grave. Donc je vous demande de réagir éventuellement sur cette partie. Je ne suis pas responsable, c'est reposant. Et donc je complète la question en disant finalement l'horizontalité, est-ce que ça convient à tout le monde en fait ou pas justement par rapport à ça quoi. Qui veut commencer? Valentine, vas-y.
À tout le monde, peut-être pas à tout le monde et peut-être pas avec tout le monde non plus. C'est-à-dire que pour avoir de l'horizontalité, il faut avoir une certaine communication entre les gens qui font de l'horizontalité, entre pour qu'il y ait des prises de décision collectives ou réparties, il va falloir beaucoup de communication. Il va falloir beaucoup d'efforts en amont pour aligner les gens vers que les gens se choisissent en objectif commun, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire cet effort pour leur travail. Peut-être qu'ils veulent juste un travail alimentaire et mettre toute leur énergie dans leur implication bénévole à côté d'autre chose. Et c'est OK. De la même façon que c'est OK de pas arriver de pas avoir la même façon de communiquer ou de pas trouver la façon de communiquer d'un groupe confortable. Je pense notamment à une organisation à qui on a parlé, pour qui le conflit était normal, attendu, et même, enfin, de toute façon, il y allait avoir des conflits. Leur mode de fonctionnement était plutôt, si on n'est pas d'accord, il y aura un conflit, on réglera le conflit. Et je vois d'autres gens à qui on a parlé, qui sont dans une entreprise qui est aussi vers l'horizontalité, qui fait aussi l'horizontalité, mais ça leur irait pas du tout de fonctionner comme ça avec autant de conflits.
Alors, je me permets juste de poser une question. Est-ce qu'ils t'ont précisé ce que ces personnes entendaient par conflit, en fait? Est-ce que c'est une discussion un petit peu chaude, ou est-ce que c'est vraiment avec des gens qui coupent la parole, etc.? Enfin, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot conflit, en fait?
L'exemple qui était donné...
Sans forcément dire qui c'est, mais en tout cas...
L'exemple qui était donné, c'était simplement le fait de... si tu faisais quelque chose pour l'entreprise, tu prenais une décision, qu'elle soit technique ou non... et que quelqu'un n'était pas d'accord, il pouvait passer derrière et le défaire.
Ah ok, d'accord.
Point barre. D'accord. Et que si derrière ça...
Moi ça m'irait pas, par exemple.
Mais alors je pensais conflit plutôt discussionnel, en fait.
Qu'ensuite, entre les deux, si ça causait un conflit personnel, on va dire, une discussion, c'était normal. Et que ça faisait partie de la vie normale de l'organisation.
D'accord.
Il y a d'autres gens qu'on a rencontrés qui seraient absolument malheureux dans ce genre d'organisation, alors que fondamentalement, ce sont des organisations avec énormément de motifs horizontaux des deux côtés. Donc c'est pas parce que c'est horizontal que tu vas être bien dedans, et tu peux mieux te sentir dans quelque chose de vertical, comme disait Marie-Odile, reposant. Pas de responsabilité. Y a des gens qui nous ont parlé d'anxiété, de savoir, de tout savoir sur la santé de l'entreprise.
Donc, y compris la santé financière.
Voilà. En fait,
parce que dans certaines structures que vous avez étudiées, les personnes salariées ont accès à tout, y compris aux factures, etc., à la compta, etc.
On connaît même une structure qui publie ça sur Internet.
D'accord. Ok.
C'est-à-dire la totalité de sa compta est accessible.
Oui, ok. Je vois à peu près. Enfin, j'ai une idée de qui c'est, mais effectivement, il y en a qui vont ces personnes-là qui vont jusque-là, effectivement. Et donc ça génère ce que tu dis, la souffrance de.
Il y en a qui nous ont dit il y avait de l'anxiété.
De l'inconfort. Ah, l'anxiété, voilà. Oui.
De l'anxiété, de tout savoir, y compris la santé financière, quand c'était un peu bancal, quand c'était un peu quand c'était pas très stable, quoi.
Au final, moi, je dirais que il y a plusieurs aspects. Tu sais, tu disais. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, Valentine disait c'est OK. Il y a le côté horizontal, vertical, il y a la personne et il y a le contexte. Et c'est la combinaison de ces trois-là qui fait que ça va ou ça va pas. Donc tu peux avoir une même personne qui, dans des contextes différents, alors le contexte ça peut être les autres personnes avec lesquelles on travaille, le but de l'organisation, est-ce que c'est salarié, est-ce que c'est bénévole, ça peut être quand t'as 20 ans, quand t'en as 30, ou quand t'en as 40, ou quand t'en as 50, donc la personne, le contexte, dit si ça se passe bien avec une organisation horizontale ou une organisation verticale. Et éventuellement la même personne, ça va bien lui convenir à 30 ans d'être dans quelque chose d'horizontal, et ça lui conviendra plus à 50, par exemple.
D'accord, ok. Là, vous avez parlé donc dans les motifs de fluidité des mandats, de transparence, de cohérence entre les objectifs à afficher et les actions. Est-ce que vous avez noté ou est-ce que vous avez eu des retours, par exemple, sur ces parties-là de personnes dans une structure qui vous disent il y a les objectifs affichés de transparence, d'horizontalité, etc., mais dans les faits, c'est pas toujours réellement mis en œuvre. Ou est-ce que globalement il y a une cohérence dans les structures que vous avez étudiées?
Alors, on en a vu des structures qui disaient on est horizontal et qui avaient des motifs qui étaient plus des motifs verticaux.
Donc, c'est un exemple. Quel motif de verticalité cette structure avait, par exemple?
Valentine et moi, on a principalement travaillé dans des structures de petite taille, disons de moins de 20 personnes, ce qui ne nous empêche pas d'avoir côtoyé des entreprises plus grandes. Mmh. Donc typiquement, quand tu dis vertical, tu penses à hiérarchie. Donc tu pourrais penser que la hiérarchie, c'est un facteur de verticalité. Après, quand tu dépasses une certaine taille, avoir quelque chose de très plat, ça peut devenir plus compliqué. Donc, je sais pas, admettons, t'es 250. Si tu te retrouves dirigeant d'une organisation de 250 personnes, tu peux pas parler avec les 250 personnes en direct, quoi. Tu comptes, ne serait-ce que tu prends 10 minutes pour parler à chaque personne une fois par mois, tu multiplies par 250, tu fais déjà des semaines de 50 heures, je pense. Donc, t'es forcé de mettre des relais d'une manière ou d'une autre. Et du coup, d'introduire une forme de hiérarchie et de verticalité. Alors, comment tu fais quand tu dépasses une certaine taille et que tu veux être horizontal? Voilà, ça peut être un exemple de contradiction. Enfin, de ce qui apparaît comme
cette question a été étudiée dans d'autres contextes, parce que je suppose qu'il y a des organisations assez grosses qui mettent en œuvre l'horizontalité. Mais bon, moins spécialiste que vous de la question. Donc,
C'est aussi pour ça qu'on est revenu de notre jugement de valeur en se disant, si on est une entreprise de 2000 personnes et qu'on veut être horizontal, on va avoir des motifs d'horizontalité. On va choisir des choses qu'on va faire pour améliorer notre horizontalité. Mais on ne pourra peut-être pas faire pareil qu'une entreprise de 4 ou de 12 personnes.
Oui, ça c'est sûr. Oui.
Et donc, l'important, c'est d'être transparent sur là où on veut aller et les compromis qu'on fait. De toute façon, les compromis, ils sont là, ils sont nécessaires. Plusieurs organisations nous ont dit, nous, on veut être transparent, on veut être absolument transparent. Par contre, tout ce qui est RH, tout ce qui est ressources humaines, on ne peut pas.
Là, ne serait-ce que d'un point de vue légal.
Légalement, on peut pas.
Quand tu parles de ressources humaines, légalement, on peut pas. C'est quoi? C'est les fiches de paye, c'est les salaires, c'est les contrats de travail.
T'as un contrat de travail.
Ouais.
Donc il y a quelqu'un qui vient te voir en disant, je veux rompre mon contrat de travail. Je suis pas sûr que tu puisses annoncer à tous les membres de l'organisation dans la minute sur la messagerie instantanée un tel m'a demandé de rompre le contrat de travail. Il peut dire attendez, moi j'en ai parlé que aux responsables du contrat.
Légalement, il y a des cadres.
Ah, oui.
Et certaines choses qui sont enfin, s'il y a un problème, on peut penser à d'autres problèmes qui nécessitent l'intervention d'une unité ressources humaines, quelle qu'elle soit, légalement, certains de ces problèmes doivent rester confidentiels. Donc, confidentiel et transparence totale, c'est pas possible. Par contre, il y a des organisations qui nous ont parlé de translucidité, à savoir, tu sais qu'il se passe des choses, tu sais qui a accès à quelle information. Donc, tout n'est pas transparent, mais par contre, il n'y a rien de caché.
Ou en tout cas, c'est explicite.
C'est explicite que tu n'as pas le droit d'avoir cette information.
Si tu penses qu'il y a un problème lié au RH, par exemple, tu sais quelles sont les personnes qui ont accès à l'information, qui participent à la prise de décision.
Et donc, tu peux aller les voir, éventuellement, si tu veux t'impliquer ou avoir des informations dans la limite, effectivement, de la légalité et puis de la confidentialité personnelle, c'est ça?
Au moins, c'est quand le fonctionnement est clair, ça supprime les occasions de dire... De créer des théories du complot, quoi.
D'accord. Alors, avant la pause musicale, dernière question, on va rester sur le contrat de travail, parce que c'était dans la liste des autres thèmes, mais c'est pas grave. Le contrat de travail, la question, c'était quelle place pour le contrat de travail, qui est un outil de subordination, dans une structure qui se voudrait horizontale? Est-ce que c'est un outil utile ou un bâton dans les roues?
Comment faire?
Ni l'un ni l'autre.
Comment faire sans contrat de travail? C'est la grande question. On avait parlé la dernière fois de notre interrogation. Est-ce que le format compte? Est-ce que le format est important dans l'horizontalité? Est-ce que être scope, d'autres formats un peu exotiques,
Sachant que je vais juste rappeler que le contrat de travail n'est pas forcément obligatoire. Beaucoup de personnes pensent que c'est obligatoire, mais dans certaines, notamment CDI par exemple, dans le privé, c'est pas obligatoire. Mais je te laisse poursuivre. Je pourrais...
ça demande de sortir vraiment du cadre. C'est-à-dire que le contrat de travail, effectivement, dit qu'il y a une relation de subordination, qu'il n'est pas là quand on parle d'indépendants qui travaillent ensemble, par exemple. Et on a des organisations qui ont fait ce choix pour éviter d'avoir une subordination de fait et une gérance de fait. Enfin, voilà, quelqu'un qui décide parce que légalement, il faut quelqu'un qui décide, qui ont décidé d'être un ensemble d'indépendants qui se regroupent pour atteindre les objectifs de l'organisation. Donc, ça demande de se poser des questions, ça demande de repenser le cadre. Et il y a des gens qui vont pas avoir l'habitude, hein, que ça peut perturber. On sort vraiment de la zone de confort. On dit, tu viens bosser ici, mais t'as pas de contrat de travail.
Oui, parce qu'en plus, je complète la question avant la pause. Dans le contrat de travail, au-delà de l'aspect hiérarchique, subordination, il y a le périmètre de... pas des responsabilités, mais des actions de la personne, en fait.
Oui, souvent, c'est...
Qui est déjà précisé et qui est une liste dont, normalement, on ne sort pas, en fait.
Souvent, ça peut être associé à une fiche de poste qui
voilà, fiche de poste,
exactement
voilà.
Ce que tu es censé faire. Ouais. Voilà. Alors, je suis pas expert de droit du travail, hein, loin de là, et... Donc, tu disais, c'est pas obligatoire. Valentine, comme elle le disait, on a vu des organisations qui ont fait pas mal d'efforts pour explorer cet espace de liberté et voir comment est-ce qu'on pouvait, en restant conforme au droit, changer un certain nombre de choses. Le résumé là-dessus, ce serait, c'est pas gratuit, quoi. Si tu fais au plus simple, de mon point de vue, ça va dans le sens de la verticalité plutôt que dans le sens de l'horizontalité.
C'est beaucoup d'efforts pour aller vers autre chose.
D'accord. Alors, on va faire une pause musicale. Alors, je vais préciser... Ah non, tu... Je ne la lançais pas immédiatement, la pause musicale, parce que je voulais préciser quand même, Élise, que fin 2023, la radio avait lancé un appel à financement participatif pour aider la radio à boucler son budget. On avait reçu pas mal de soutien, dont d'ailleurs aussi Valentine Gigalon. Merci à elle. Et une des personnes, Clément Houdot, qui est un libriste, mais qui est aussi artiste sous le nom de Captain, hein, K-P-T-N, avait été donc une des personnes à contribuer. Et parmi les contributions, il y avait le choix d'une pause musicale. Et comme il le dit lui-même, Captain fait des chansons françaises, mais amusantes. Je précise que l'album de l'artiste Captain s'appelle Flamme. Le message qu'il souhaite associer à sa musique, c'est Captain, il est libre, un max. Donc voilà, on a toutes les références hein, pour les. Et donc nous allons écouter, il a proposé un titre, nous allons écouter Irrésistant, donc par Captain. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Des repères de nos histoires et de celles de nos pères, nos apparences et nos silences. Et pourquoi taire tout ce qu'on ne comprend, tous ces mystères, les mots de nos romans, nos belles paroles, nos idées folles. No way.
la belle étoile à la nef des fous, au firmament des mauvais temps. Seuls contre tous, ils lèveront le poing, les doigts serrés sur l'espoir de demain, par la résistance d'une dernière danse. Oh, on laisse nos rêves et nos idéaux. Qu'est-ce que l'on peut bien y faire? Qu'est-ce que l'on peut bien y faire? Qu'est-ce que l'on peut bien y faire?
Nous venons d'écouter Résistant par Captain, disponible sous licence Creative Commons CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors je vais corriger, la licence n'est pas du tout CC BY, hein, c'est CC BY SA, c'est-à-dire Creative Commons partage dans les mêmes conditions, donc attribuons bien la licence. Et si vous voulez découvrir Clément Oudot, vous pouvez aller aux rencontres professionnelles du logiciel libre qui ont lieu à Lyon le 10 juin 2024. Il sera là à titre professionnel, vous pourrez lui faire un petit coucou, mais j'en reparlerai en fin d'émission. Donc on va reprendre notre échange sur les modèles d'organisation ouvert, donc avec Valentine Augier-Galland et Nicolas Chauvin. Et je vais relayer une question qu'on a reçue sur le salon web. Alors je vous rappelle, vous pouvez intervenir vous aussi sur le salon web. Vous allez sur causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous, ou sur le site de libreavoue.org directement. Donc la question est, le modèle d'organisation peut-il être fondamentalement ouvert à toutes les personnes salariées si le capital n'est pas contrôlé par l'ensemble des salariés? Qui veut se lancer dans la réponse? Valentine.
Alors, au début, notre question était, est-ce que c'est possible si on n'est pas en coopérative, par exemple? Et la question a évolué parce que maintenant, je pense que l'un des axes possibles, qui n'est pas nécessaire mais qui est utile pour aller vers l'horizontalité, c'est celui de l'implication financière. Ce qui est très différent d'être en coopérative, parce que par exemple, moi, pour rentrer dans ma coopérative et devenir associé, il y a tout un processus, mais financièrement, ça coûte une dizaine d'euros. L'implication financière n'est pas énorme. L'implication morale, sociale, c'est autre chose. Dans d'autres organisations qu'on a vues, l'implication financière, elle est bien plus importante. Elle est d'environ un an de salaire. Et avec tout un système mis en place pour que ça soit inclusif, c'est-à-dire même les gens qui n'ont pas un an de salaire au départ, puissent le faire.
C'est-à-dire les nouvelles personnes entrantes.
Oui.
D'accord.
Mais cependant, l'implication n'est plus du tout la même. Donc, je pense que si on a une entreprise qui est vraiment horizontale, avec beaucoup de motifs, avec beaucoup d'efforts pour justement empêcher des motifs verticaux d'apparaître naturellement, on peut avoir un capital qui est concentré. Mais c'est quand même un motif qui va aider. Si on a une implication financière de tout le monde, implication financière suffisante, en fait, qui va participer à responsabiliser les gens. Tu voudrais ajouter quelque chose,
Nicolas?
Oui, l'exemple que vient de citer Valentine, je le trouve intéressant, parce que si tu le formules un tout petit peu différemment, ça veut dire que dans cette entreprise, les gens empruntent pour venir travailler. Les gens, pour venir travailler dans l'entreprise, font un emprunt sur 5 ans, en gros, qui sera remboursé plus ou moins automatiquement grâce à leur travail.
Mais... Ce que tu dis, c'est en théorie ou c'est par rapport à ce que vous avez
Non, c'est ce qu'on a vu.
D'accord. Okay.
Alors,
c'est pas courant qu'une personne pour travailler doit se faire un emprunt. En fait.
C'est pour ça que je veux le souligner. Alors d'accord. Après, si t'as Si tu as des économies qui correspondent à, en gros, 7 ou 8 mois de salaire, dans ce cas-là, passer ta période d'essai, tu peux dire, bon, ben voilà, je vous donne 8 mois de salaire et puis maintenant, je suis à égalité avec tout le monde. Mais la plupart des gens, pour pouvoir être à égalité avec tout le monde, ce qui est indispensable dans cette structure-là, ils se retrouvent à faire un emprunt. Alors, ils ont une espèce de partenariat avec un banquier avec lequel ils s'entendent bien et qui accepte toujours de signer les prêts. Mais c'est pas le plus courant.
Et en même temps, ça inverse complètement la logique. Ça inverse complètement la logique des entreprises. On parlait tout à l'heure du contrat de travail, mais on a beaucoup aujourd'hui la logique d'une entreprise qui est dont le capital appartient à une ou deux personnes, ou trois personnes maximum, ou alors c'est énorme. Et là, on ne sait même plus. Et le fait de rendre ça visible, encore une fois, on est toujours un peu dans ce motif de transparence, hein, que le fait de rendre ça visible, ça permet de mettre les choses à plat et potentiellement de contourner ou en tout cas changer des façons de faire.
Là, ça me fait penser à un autre exemple. Une personne qui a créé une entreprise, l'entreprise a commencé à bien fonctionner, on lui a proposé de la racheter. Pour différentes raisons, ça l'a choqué. Elle a dit... elle a dit non à la proposition de rachat. Et puis en plus, elle a dit « Je veux pas me retrouver dans une situation où je pourrais pas dire non. Donc, je veux plus que l'entreprise m'appartienne. Il faut qu'on change de statut et qu'elle appartienne à tout le monde. » Donc, la personne a mis en œuvre ce changement-là. Et une bonne part de ceux qui étaient salariés dans la structure ont quitté la structure parce que ça leur convenait plus. Mmh. Alors après, c'est reparti. Je sais plus si c'est une bonne part ou pas, mais
des personnes ont quitté la structure parce que ça leur convenait pas.
Et puis après, c'est reparti et maintenant, ça fonctionne à nouveau. Mais c'est pour revenir là aussi, insister sur à quel point c'est la personne, le contexte et l'organisation qui doivent... être cohérente pour que ça fonctionne et que les gens se sentent bien. Quoi.
Pour citer cette personne, elle disait qu'on lui avait beaucoup dit qu'elle avait sabordé un truc rentable. Et c'est très intéressant parce que d'aller vers de l'horizontal, c'était considéré comme quelque chose d'un peu débile quand même. Et quelque chose de pas vraiment pertinent. Pas vraiment la décision d'un businessman. Quoi.
D'accord. C'est... Ouais. Bah, ça me fait penser, est-ce que finalement l'horizontalité, c'est un gage de réussite ? Parce que finalement, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu viens de dire, les gens se sont inquiétés en se disant, si on change de modèle, ça va pas aller. Quoi.
Ah, c'est quoi la mesure de succès d'une entreprise en vrai ?
Voilà, c'est pour ça que je pose une question ouverte en ayant conscience que gage de réussite. Je mets dans l'ensemble le bien-être des personnes qui travaillent, la satisfaction des clients, etc. Enfin voilà.
On en reparlait avec Valentine ce matin. Tu prends une communauté plus grande comme la France. Est-ce que tu mesures la réussite de la France à son PIB ou est-ce que tu fais comme le Bhoutan et tu mesures son
bonheur individuel brut. Mais ça c'est super intéressant parce que pourquoi est-ce que tu as créé l'entreprise? Est-ce que tu as créé l'entreprise pour donner de quoi vivre à ses membres et c'est tout et ça suffit? Est-ce que tu as créé l'entreprise pour pérenniser quelque chose, pour créer quelque chose qui dure 100, 120 ans? Est-ce que c'est pour être le premier sur le marché? Est-ce que ton objectif, c'est la croissance? Est-ce que ton objectif, c'est la résilience en cas de coup dur, en cas de Covid, que ça survive? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est le fait que les gens restent? Est-ce que c'est ou non un critère? Parce que si tout le monde part, est-ce que c'est bien ou est-ce que finalement c'est pas bien?
D'autant plus que dans l'informatique, souvent un critère de réussite dans certaines entreprises, malheureusement, c'est le turnover. C'est-à-dire que le fait que les gens ils tournent. Pour l'entreprise en tout cas, je vais pas citer de nom. Oui. Mais c'est malheureusement.
Je crois que je sais à qui tu parles.
C'est un des critères, pas que dans le libre d'ailleurs. Voilà, c'est un des critères.
Est-ce qu'un critère de succès, c'est d'être une entreprise horizontale? Et justement, est-ce que finalement c'est un critère de succès ou pas? Je pense que la différence de fonctionnement, que ça soit horizontal ou vertical, c'est rarement la raison de l'échec. De la même façon que quand on a une relation amoureuse atypique, c'est pas forcément le fait que ce soit atypique qui fait que ça va foirer. Des fois, ça foire parce que ça foire, quoi.
Oui, parce que c'est des relations humaines, quoi.
Voilà. Et là, des organisations, c'est des humains ensemble. Donc, des fois, ça foire, des fois, ça foire pas. Et l'important, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la cohérence entre l'objectif, entre le besoin de la personne, les aspirations de la personne, les aspirations de l'organisation et les actes. C'est si on dit on fait confiance et on fait confiance totalement aux gens, ben dans ce cas, mettez la carte bleue en libre accès. La carte bleue d'entreprise. Là, vous mettez en cohérence les actes et les aspirations.
D'accord. Le temps passe vite. Mm-hmm. On a encore des sujets que vous voulez absolument aborder avec raison. Mais avant de changer un tout petit peu de thème, il y avait un point dont on avait discuté, c'est la spécialisation polyvalence. Et je crois que c'est Nicolas qui avait dit « Moins on a de gens prêts à faire du développement de la compta, moins c'est facile d'avoir de l'horizontalité. » Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, en tout cas, ou si ça correspond à ce que tu penses. Mais c'est quoi cette notion de spécialisation versus polyvalence ?
Mais on a ouvert la discussion en parlant de mandat et de répartition des responsabilités. Il y a un certain nombre de choses, c'est un peu les thèmes qu'on retrouve aussi sur la page du projet, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires au fonctionnement d'une organisation. Il y a du recrutement, il y a tout ce qui est la gestion de ses membres, donc les arrivées, les départs, que ça se passe bien quand ils travaillent là. Il y a tout ce qui est financier, c'est-à-dire s'assurer que les ressources financières nécessaires à l'organisation sont là. Alors, dans une association, ça peut être un peu différent de, dans une entreprise commerciale, mais il y a toujours des dépenses. Les associations, il y a rapidement des permanents quand ça grandit. Bon, une entreprise, tu as des salariés, tu dois trouver des nouveaux clients ou entretenir les relations avec les clients. T'as aussi toujours une partie technique. Alors là, comme on fait de l'informatique, il faut que les ordinateurs fonctionnent, il faut que les logiciels soient développés, il faut que les bugs soient corrigés, etc. Si tu veux être horizontal, et si horizontal, ça veut dire... Si une des manières d'être horizontal, c'est de faire tourner les responsabilités d'une façon ou d'une autre, ben, si t'as des gens qui rentrent dans l'organisation en disant « Moi, je m'occuperai que des serveurs et rien d'autre », c'est pas facile de faire tourner.
C'est peut-être possible, mais c'est plus compliqué.
C'est pas facile. C'est plus dur.
Ça devrait demander beaucoup plus d'efforts. Et des gens qui sont en capacité, c'est une chose parce que ça s'apprend. On va parler de la formation plus tard, peut-être.
Oui.
Mais des gens qui ont l'envie de faire à la fois rebooter le serveur, parce qu'il faut bien que quelqu'un reboote le serveur, et faire la compta, et rappeler la femme de ménage parce qu'elle n'est pas passée, on ne sait pas pourquoi, etc. Toutes ces petites choses qui font que ça tourne, si on est là et qu'on dit « Non mais moi, ça ne m'intéresse pas, je veux juste coder », ça ne marchera pas. C'est vraiment... Donc, cette côté polyvalence, c'est un peu nécessaire pour pouvoir justement diluer et ne pas avoir une personne qui fait tout parce que c'est la seule qui sait faire.
Mais si on fait le parallèle avec des projets libres, ce qu'on essaie régulièrement de faire dans le projet, un projet libre où tu n'as que du code, s'il n'y a pas de documentation, s'il n'y a pas de site web, s'il n'y a jamais de présence sur les événements, s'il n'y a pas de présence sur un forum en ligne, si quand des gens posent des questions ou des gens... rajoute des tickets, personne ne leur répond.
Le code, il a intérêt à être vraiment, vraiment, vraiment bon. Quoi.
Faut vraiment que le code soit bon.
Oui, alors, ce que vous venez de dire me fait enchaîner sur le thème d'après, hein, parce que je vois qu'il reste un petit quart d'heure, qui est la capacité de... Dans les exemples que tu citais, finalement, la personne qui code veut juste coder sans se préoccuper de ce qui est autour et ce qui lui permet en fait de coder en toute tranquillité, c'est-à-dire avec peut-être du chauffage, un bureau, des tickets restaurants, un bureau qui est nettoyé parce qu'une personne est faite pour ça et qu'on rappelle, voilà, etc. C'est le soin quelque part, le soin des personnes, de l'organisation, ce qu'on appelle aujourd'hui le care. Et je crois que c'est notamment Valentine qui voulait en parler. Donc dans cette organisation, dans ces organisations horizontales, comment se gère ce soin, peut-être en distinguant justement le soin des personnes, le soin de l'organisation, des serveurs aussi. Tout à l'heure tu parlais de rebooter un serveur, ça fait partie quelque part du soin du système d'information. Donc au niveau de la production, comment ça se passe justement dans ces organisations-là, sachant que dans la fiche de poste, normalement, on est dédié à le dev, la compta ou autre chose. Donc, comment ça se passe?
Justement, dans les fiches de poste classiques, souvent, il y a beaucoup d'activités de care qui n'y apparaissent pas. Il y a beaucoup de choses qui sont
absentes. C'est totalement absent, oui.
Voilà, on a des choses sur la technique, on a des choses effectivement sur peut-être la compta, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses pour prendre soin d'une organisation et prendre soin de ses membres. Il y a beaucoup de petites choses à faire qui passent souvent à l'as. Il y a des organisations qui mettent l'effort sur les rendre visibles. Il y a une organisation qui nous parlait des petites gouttes, d'un tableau des petites gouttes. C'était les petites choses qui étaient faites, petites gouttes d'eau comme des toutes petites choses qui sont faites et qui doivent être faites au quotidien ou régulièrement pour justement prendre soin de son organisation et de ses membres. Et il y a beaucoup de choses qui, parce que traditionnellement, elles sont pas dans les fiches de poste, c'est pas mon travail, c'est invisibilisé. C'est souvent fait un peu par les mêmes personnes quand même. Il y a une
division. Est-ce que je peux me permettre, souvent les mêmes personnes d'un genre particulier?
Ouais, c'est assez genré.
C'est assez genré quand même. Hein. C'est la petite fée quoi qui fait que. Alors Nicolas qui fait, je peux pas le mimer parce qu'on a la radio, mais qui est pas fort. Mais c'est oui.
Ouais, Nicolas sur le quai de la gare, qui avec qui on parlait de ces gens qui ont des belles carrières et parce qu'il y a quelqu'un derrière. Et
souvent parce qu'il y a une femme derrière.
Voilà, qui sont en capacité de faire des journées de 10 heures parce que derrière il y a quelqu'un à la maison.
Exactement.
Et dans une entreprise aussi, il y en a qui ont la capacité de faire des journées de 10 heures à faire que du code. Ou d'ailleurs faire que de la compta, parce qu'il y a quelqu'un où il y a des gens qui font ce travail autour. Et je pense que pour être horizontal, il faut une certaine proportion de gens qui sont motivés, qui sont prêts, qui sont motivés à faire cet effort-là, qui est un vrai effort, c'est une vraie charge mentale aussi, parce qu'il faut y penser, il faut s'apercevoir que c'est à faire. Et ça peut aller de s'apercevoir qu'il y a des gens qui ne parlent pas, qui parlent beaucoup moins que les autres en réunion.
Dans les réunions, ouais.
Voilà. Un outil qui avait été mis en place dans une organisation, c'était, ils avaient mis en place quelque chose sur toutes les visios qui affichait automatiquement les temps de parole des gens. Et donc, il y a rien de coercitif, c'est juste informatif. Attention, là, il y a 3 personnes qui ont parlé et les autres qui ont pratiquement rien dit. Peut-être qu'on veut faire quelque chose par rapport à ça. Donc, mais il faut le mettre, cet effort, parce que sinon on va glisser vers la verticalité parce que on a une société où on est un peu tous formés à ça.
Alors justement, on va pas tout de suite parler de la formation, ouais. On va en parler parce que ça avance, mais c'est quand même une question à la formation. Et tout à l'heure vous parliez de faire tourner les responsabilités, notamment de la polyvalence technique, mais là quelque part dans le soin, il y a tourner la responsabilité qui n'est pas du tout technique. Qui est une autre compétence.
Et qui pourtant demande des compétences.
Qui demande des compétences. Est-ce que par exemple, donc dans les organisations que vous avez pu étudier ou interviewer en tout cas, est-ce qu'il y a des formations dédiées à cet aspect-là? Parce qu'il y a souvent des formations évidemment techniques sur le développement, mais est-ce qu'il y a des formations sur cet aspect humain?
J'aurais même dire, plus les entreprises étaient, plus les organisations étaient horizontales, plus il y avait des actions à ce niveau-là. Mais c'est des motifs qu'on va voir aussi sur des très grosses entreprises qui veulent aller vers l'horizontalité. C'est des actions d'accompagnement, que ce soit des séminaires, que ce soit des formations externes, que ce soit du coaching ou du mentoring en interne. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
Tu veux revenir sur le fait quand tu n'étais pas d'accord tout à l'heure, quand tu faisais je ne sais plus quoi avec la tête? Comme tu veux, tu parles de ce que tu veux.
Les deux points que je peux rajouter sur ce qui a été dit juste avant, c'est parfois il y a aussi des gens qui ont des journées de 8 heures dans certaines organisations parce que toutes les petites gouttes dont parlait Valentine, c'est fait par les mêmes qui du coup ont des journées de 12 heures.
Ou de plus.
Ou de plus.
Des week-ends.
Et c'est pas toujours... Enfin, pas toujours. C'est pas forcément parce que ceux qui font des journées de 8 heures sont de mauvaise foi. Ça peut tout simplement être parce que ceux qui font des journées de 8 heures ne se rendent pas compte de tous les autres trucs qui sont faits pour que ça continue à fonctionner.
C'est-à-dire comme 99,99% des hommes. Moi inclus, hein. Ah, je...
Et pour que... pour avoir une chance d'équilibrer ça, là aussi, il faut expliciter les choses en disant... exposer, quoi. En disant, voilà, il y a ça qui a été fait, ça qui a été fait. Et si tu ne dresses pas cette liste et si tu la rends pas visible par tout le monde, je suis persuadé qu'il y a des gens qui croient que les bureaux se nettoient tout seuls, quoi. Je sais pas, à chaque fois que je viens,
en fait, je relaye la remarque de Marie Odile, hein. Enfin, c'est comme à la maison, quoi. Qui fait quoi? Donc, lister qui fait quoi? Mm-hmm. Et comme à la maison, dans les couples hétéros, les hommes, par magie, pensent que la table se nettoie, le repassage est fait, etc.
Mais c'est par magie, mais parce qu'il y a une socialisation et une éducation.
Tout à fait. Oui.
Et la socialisation et l'éducation, des travailleurs est également biaisée en faveur d'être employé et pas en faveur de prendre la responsabilité de son organisation. On n'est pas l'éducation nationale, pour ne pas la citer, hein, mais la formation initiale en France est une formation pour devenir employé. Pour devenir employé dans un environnement extrêmement vertical et pas pour prendre des responsabilités. On nous forme pas à devenir chef d'entreprise, qu'est-ce que soit le truc, ni à être indépendant, ni...
Même pas chef d'entreprise, parce que si tu dis chef d'entreprise, tu t'emmènes plein de trucs avec toi, juste responsable. Quand tu regardes les tout-petits, ce qu'on leur demande, à l'âge où ils ont toute l'énergie du monde, on leur demande de se taire, de rester assis et de faire ce qu'on leur dit, quoi. Alors que... Il y a bien un moment où il faudrait leur permettre de s'exprimer, c'est à ce moment-là. Donc, dès tout petit, on apprend aux gens à obéir. Plus tard, on leur dit ce qui est important, c'est que vous ayez un métier. Alors, entre être formé à un métier et faire des études, moi, je vois une différence. Je fais partie des gens qui discutent la grosse tendance à l'apprentissage aujourd'hui, parce que autant la mise en pratique, etc., je trouve ça bien, autant laisser croire aux gens que leur seul rôle, c'est de correspondre à l'entreprise qui les forme, je trouve ça discutable. Donc, ce cadre général, là aussi... pour moi, est en faveur des structures verticales. Et si tu veux organiser un groupe de personnes de manière horizontale, il y a presque des choses à désapprendre, en fait.
Et
suivant les gens, c'est plus ou moins difficile.
Soit c'est des gens qui auront déjà été hors cadre, hein, pour lequel ça collait pas déjà, et qui cherchent quelque chose d'autre. Soit, effectivement, il faut désapprendre ce qui a été appris. Et moi, je trouve ça assez révélateur que si on veut créer une structure en France, si on veut créer une entreprise, on va nous orienter vers un MBA. Master de business, ouais. Quelque chose comme ça. C'est une formation qui, clairement, forme les gens à être dominants.
Oui, c'est ce que tu disais dans la préparation, c'est la question que j'allais te poser. Vous avez dit donc en plus, vous voyez, nos invités sont très forts, c'est qu'ils sont arrivés au sujet de formation sans qu'on le lance. Vous avez dit donc en gros que la formation ne nous prépare pas à l'horizontalité, mais qu'en plus dans la préparation, je crois que c'est donc toi qui me l'as dit, Valentine, elle renforce les dominants.
Ben c'est soit on te forme à être employé, c'est le cas de la plupart des gens, soit tu vas directement dans une formation qui va te former à être dominant. Il y a très peu de formations disponibles, sauf par exemple sur les URSCOP, les unions régionales, les unions régionales des SCOP,
d'accord,
donc des coopératives, qui vont à mort apporter des formations spécifiques là-dessus, mais ces formations, on les découvre par hasard. Il faut déjà connaître ce que c'est qu'une SCOP. Moi, j'en ai jamais entendu parler à l'école. Et pourtant, c'est vieux.
Oui. Alors, il y a d'autres formations que celle des URSCOP, mais pour moi, l'idée principale là-dedans, c'est si tu veux faire quelque chose d'horizontal, t'as une pente à remonter, quoi. C'est vers le haut.
Et elle est grosse, c'est quoi le pourcentage de la pente? C'est 10%, 20%,
On a beaucoup de gens qui nous ont parlé, de gens qui étaient moteurs de l'horizontalité dans leur entreprise et qui ont parlé de fatigue, d'épuisement, voire de risque de burn-out, de lassitude. Et ils y croient quand même. Et il y a cet effort, il est réel. Il faut le poser, quoi. Et on vit dans un monde qui n'est pas horizontal, qui n'est pas favorable à l'horizontalité, et donc on remonte la pente.
Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui glorifie l'individualisme.
Ou le chef, le héros.
Ou le chef, le héros, ou le, comme dirait Marie Odile sur le salon, le grand homme, entre guillemets.
L'homme providentiel qui va nous sauver tous.
On va pas rentrer sur ce sujet-là, mais oui.
Toute ressemblance serait purement fortuite.
On n'est pas loin de la fin du sujet. Je vais vous laisser. Je vais vous faire la question finale comme ça. J'espère que vous l'avez préparée ou en tout cas vous allez l'improviser parce que vous avez un grand talent. Et alors ça, finale pour cette émission-là parce que on se donne rendez-vous évidemment pour la troisième émission. Donc la traditionnelle question finale d'un sujet long. Je ne sais même pas où je l'ai mise. Ah oui, si. En gros, est-ce que vous pouvez expliquer chacune et chacun en 2 minutes les éléments clés à retenir ou ce que vous avez envie de faire passer dans ces 2 dernières minutes chacun et chacune. On va commencer par Nicolas et finir par Valentine. Okay. Ou si vous voulez faire l'inverse, vous faites l'inverse. Vas-y. Moi, j'ai pour l'habitude de finir par comme ça, mais vas-y.
C'est vous le chef.
Chef, oui, chef.
Donc, moi, ce que j'espère en venant ici, en parler à la radio, c'est faire du logiciel libre, au sens, on a essayé des trucs, donc là, on a essayé de réunir des informations et d'y réfléchir. Et maintenant, en venant à la radio, on essaie de les repartager dans l'espoir que d'autres gens les trouveront utiles et feront leur propre cuisine avec. Donc, s'il y a des gens qui font leur cuisine avec et qui trouvent ça utile et qu'ils veulent nous en parler, ça nous fera très plaisir de les entendre. Donc, ils peuvent aller sur la page du projet pour voir ce qu'on a réussi à produire et nous envoyer un mail. Dans le même esprit, la suite du projet, ça pourrait être d'organiser un atelier pour réunir les entreprises avec lesquelles on a parlé et peut-être d'autres personnes intéressées. Donc là aussi, contactez-nous. D'ailleurs, merci. Suite à la précédente émission, on a 2 chercheuses de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Alors là, par contre, elles, c'est leur métier de travailler sur ces questions-là et d'écrire des articles, des publications, qui sont Véronique Sanguinetti et Isabelle Alphonse, qui nous ont contactés, avec qui on a discuté, et on va probablement poursuivre le projet à 4. Donc voilà, c'est un début de communauté, on dirait. Les logiciels libres ont des communautés, ce projet a une communauté en croissance. Et puis, qu'est-ce qu'on produira ensuite? Je sais pas. Valentine et moi, on a toujours fait de l'agilité. Dans le domaine de l'agilité, il y a un manifeste agile. Je sais pas si on peut parvenir à écrire un manifeste de l'entreprise horizontale.
Pas seul, mais dans le cadre de l'atelier dont tu parlais tout à l'heure.
Enfin, c'est ça.
Pour rassembler des gens.
La communauté, on
parle. Écoute, merci Nicolas, je suis ravi de savoir que les interventions dans Libre à vous permettent de recruter des personnes sur les projets. Voilà, c'est très bien. Valentine, ta conclusion, ou en tout cas tes 2 dernières minutes
Alors, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est... oui, on peut créer une structure horizontale, une organisation horizontale. Ça marche pour certains critères de ça marche, à savoir, si c'est votre objectif de fonctionner de façon horizontale, allez-y. Et dans le contexte que l'on a décrit, ça demande des efforts, c'est pas forcément facile. On vit dans un monde qui va pas forcément nous aider à être horizontal. C'est aussi OK de faire des petites bulles d'horizontalité à l'intérieur d'une entreprise qui ne l'est pas encore. C'est de faire de l'horizontalité à petits pas, de prendre un des outils, ceux qu'on a cités aujourd'hui ou ceux qu'on va rajouter sur notre site internet, juste un outil, et de voir potentiellement ça peut essaimer. C'est-à-dire plus d'inclusivité, plus de transparence, plus de fluidité, des petites choses. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que la bulle implosera sous la pression et la friction, et peut-être qu'un SMRAL donnera des idées à d'autres et qu'on peut changer le monde.
Un octet à la fois ou un pas à la fois. Donc l'horizontalité, c'est pour un terme qui plaît à ma collègue, c'est un cheminement vers l'horizontalité.
On n'est pas horizontal, mais on fait de l'horizontalité.
Exactement. Alors je renvoie les auditrices et auditeurs à la page web de l'émission pour retrouver les références et notamment le site de l'enquête. Donc c'est libravou.org/209 parce que nous sommes à la 209e émission. Donc merci à Valentine Augier-Galland et Nicolas Chauva pour cette deuxième émission. Donc on se redonne rendez-vous a priori, j'ai bien compris, d'ici à peu près un an pour la troisième édition. En tout cas, quand vous êtes prêts, vous êtes invités. Quand vous pensez que vous avez encore de nouvelles choses à dire, vous êtes les bienvenus. Merci à vous et belle fin d'après-midi. On va faire une pause musicale. Alors, la pause musicale est un choix de Joseph Garcia, qui est membre de l'équipe récemment créée Musique pour Libre à vous et dont Valentine fait d'ailleurs partie également. Alors, sur la radio, Joseph s'occupe aussi de la réalisation de l'émission Les Contes, c'est du sérieux, qui est diffusée chaque deuxième dimanche du mois à 20h30. Nous allons écouter The Hall par Moma Swift. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. Hope you'll toss and turn, hope you'll never get to sleep. I hope you hear the cries of the fucked up minds.
Nous venons d'écouter The Hall par Momas Swift, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0. Je remercie encore Joseph Garcia pour cette belle découverte.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre avec la chronique L'Aptitude de Luc. L'Aptitude de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui réveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter L'Aptitude augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens et décuple le sexe à pile. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Je précise que évidemment c'est la description de Luc qui n'engage que lui. Le thème du jour, Dark Pattern, on se retrouve juste après.
J'ai découvert avec un certain plaisir que l'Europe s'attaque de nouveau à Meta. L'Europe lui reproche cette fois-ci ses dark patterns qui insidieusement génèrent de la dépendance. Elle s'inquiète particulièrement des effets sur la santé mentale des plus jeunes et se demande si, des fois, Meta ne ferait pas tout le nécessaire pour protéger leur psychisme. Toujours pour protéger notre précieuse jeunesse européenne, les Pays-Bas ont infligé une amende pas très haute non plus à Epic, l'éditeur de Fortnite. Là aussi, ce sont ces dark patterns qui ciblent les enfants qui sont mis en cause. Ce n'est pas une première, en 2022, les États-Unis alignaient l'éditeur pour sensiblement les mêmes raisons, à hauteur de 500 millions. Les Néerlandais arrivent 2 ans plus tard avec une prune ridicule d'1,1 million. Ils comptent sans doute sur l'effet comique de leur démarche pour faire rigoler les VIP d'Epic et obtenir gain de cause à la pitié. Mais ce n'est pas tout, un groupement d'associations de consommateurs européens, le BUC, attaque également les dark patterns. Cette fois, c'est Temu, le site marchand chinois qui est sur le grill. Les dark patterns se retrouveraient-ils soudainement en pleine lumière ? Pour les situer un peu, il s'agit de dispositifs destinés à manipuler l'utilisateur afin qu'il fasse telle ou telle chose, en général dépenser plus de fric. Les dark patterns sont protéiformes et appliqués dans des domaines différents. Ils peuvent consister en un gros bouton super visible pour accepter tous les cookies, alors que pour les refuser, il faut cliquer sur un petit lien discret. Ils s'appliquent volontiers dans le commerce, avec des promotions bidons qui affichent des prix barrés délirants qui laissent croire qu'on fait une super affaire. Ou encore, un compte à rebours de validité de l'offre qui débouchera sur le même résultat qu'une tentative de lancement de la capsule Starliner de Boeing. Ça peut également être une inscription validée en un battement de cils, mais une désinscription dont la procédure est cachée au fond d'une crypte, gardée par des ghouls affamés, nécessitant d'expédier par pigeon voyageur, assermenté, une lettre signée de son propre sang et cachetée à la cire. On trouve des dark patterns partout, l'imagination des marketeurs et commerciaux qui défèquent ce genre de fonction est sans limite. Je connais des power users de systèmes privateurs qui s'en accommodent bien. Ils savent éviter les choses trappes. J'en connais beaucoup d'autres qui ne sont pas câblés pour ce genre de choses et qui se font avoir. À l'époque où j'usais mes cordes vocales sur les stands de l'April, j'ai souvent expliqué qu'un des agréments de GNU Linux et du logiciel libre en général est la tranquillité d'esprit. Les utilisateurs des GAFAM ne savent pas ce que c'est que d'allumer un PC ou un téléphone en toute quiétude. C'est comme rentrer chez soi, enfiler ses pantoufles et se détendre. Sauf bien sûr si on a connu Ubuntu avec sa recherche Amazon intégrée. Alors que les dark patterns, ce serait plutôt comme rentrer dans le logement qu'on partage avec une personne toxique qui nous applique une pression constante, mais avec laquelle on vit depuis tellement longtemps qu'on n'en a même plus conscience. Le terme dark pattern a émergé dans le monde du numérique, mais il n'en est pas du tout un monopole. Qu'on examine la façon dont est organisée la grande distribution, c'est du dark pattern dans le monde physique. L'organisation de l'espace du magasin, les têtes de gondole, les prix, tout est pensé pour piéger le client. En politique également, j'ai personnellement eu à subir un dark pattern éculé consistant à faire barrage à l'extrême droite en votant pour des gens qui se sont consciencieusement attachés à la faire monter. Si les dark patterns sont la norme, alors peut-être que leur invocation contre un acteur économique est un prétexte pour aller taper arbitrairement sur un acteur qui nous déplaît. Par exemple, en Inde, Temu n'est pas un problème, c'est Amazon qui est attaqué. Et donc cette attaque contre Temu me chagrine particulièrement. Il faut voir à long terme et travailler sa note sociale tout de suite en prévision du moment où nous plierons le genou devant l'empire chinois. Ainsi, je veux bien croire que Meta ou Epic mettent en œuvre des dark patterns, mais Temu, non. J'aimerais pouvoir invoquer le rasoir d'Unlon, selon lequel il ne faut pas attribuer à la malveillance ce qui peut être expliqué par la stupidité. C'est un outil puissant. Grâce à lui, on peut se laver du soupçon de tous les coups pourris à condition de jouer au débile. Mais affirmer que les gens de Temu sont stupides risque de ne pas améliorer ma note sociale. J'affirme donc que Temu œuvre pour notre bonheur et notre bien-être. Ce n'est rien de moins que la Pax Sinica qui nous est proposée, et si les moyens mis en œuvre pour nous faire sauter le pas ressemblent à des dark patterns, c'est pour mieux nous faire sortir de notre caverne de Platon, afin d'entrer directement dans celle d'Alibaba.
Donc c'était la chronique La Pituite de Luc. Je vais faire une demande spéciale pour la prochaine saison à Luc et G. C'est, je pense qu'on serait preneur et preneuse d'un duo, vu votre humour là, franchement. Voilà, au moins une émission spéciale. Voilà, c'était une demande que je envoie et j'enverrai le message aussi à Luc. Alors nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans les locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec un apéro participatif à la clé, l'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le vendredi 7 juin 2024 et je serai présent à cette soirée. Le premier samedi du libre aura lieu ce week-end, le samedi 1er juin 2024 à la Cité des Sciences et de l'Industrie à partir de 14h. L'occasion de découvrir des logiciels libres, de vous faire aider pour installer des logiciels libres et également des conférences. Il y a également le festival Passage en scène qui commence jeudi 30 mai et qui se termine dimanche 2 juin. Le festival a lieu à Choisy-le-Roi en Ile-de-France avec une présence de l'April avec un stand et deux conférences. Je vous en parlais tout à l'heure, le 10 juin 2024 à Lyon, il y a les rencontres professionnelles du logiciel libre avec notamment la présence de Captain. Alors là, il sera sous le nom officiel de Clément Houdot et parlera plutôt de logiciel libre et de technique. Mais allez lui faire un petit message pour le remercier pour ses musiques. Il y aura un stand de l'April et ma collègue Isabella sera également présente. Toujours dans les événements, je peux citer les rencontres Scénarii 2024. Alors Scénarii, c'est une suite logiciel libre de conception et d'utilisation de chaînes éditoriales pour la création de documents multimédia. Et donc les rencontres Scénarii auront lieu du lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2024 à Toulouse. Si vous voulez en savoir plus sur Scénarii, vous pouvez écouter l'émission 166 de Libre à vous, donc sur libreavoue.org/166. Alors notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, G, Valentine G. Galland, Nicolas Chauvin, Luc, aux manettes de la régie aujourd'hui, merci Élise. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Si vous écoutez ce message, c'est parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette émission. Pour cela, merci à vous. D'ailleurs, aujourd'hui, on voulait particulièrement remercier Bruno Dewoyer, alors j'espère que je prononce bien le nom, qui nous a laissé un commentaire suite à l'émission 206 du 23 avril dernier, dont le thème était « Retour d'expérience logiciel libre au lycée Carnot ». Alors, je lis son commentaire. « Une émission fantastique avec deux professeurs de numérique du lycée Carnot de Bruay-la-Buissière. J'y ai appris une tonne de choses avec peu d'efforts, tant la pédagogie et les travaux de tous les intervenants est une grande qualité. Bravo et encore merci. » Eh bien, n'hésitez pas à faire de même et nous laisser un commentaire sur la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libreavoue.org/209. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 4 juin 2024 à 15h30. Notre sujet principal sera au cœur de l'April, l'occasion d'en savoir plus sur notre association et les membres qui la font vivre. Nous vous souhaitons de passer de belles fins de journée. On se retrouve en direct mardi 4 juin 2024 et d'ici là, portez-vous bien.